Radio Campus Paris présente la séance du dimanche par Vitamine Ciné. Bonsoir et bienvenue dans la séance du dimanche. L'émission est diffusée depuis maintenant un an et c'est toujours un plaisir pour nous de parler cinéma sur les ondes de Radio Campus Paris. Pour ce 10e épisode, 11e si on compte le hors-série diffusé en novembre, nous sommes enfin de retour en studio pour débattre en chair et en os de Blade Runner. Et quand je dis nous, je parle évidemment de l'équipe de Vitamine Ciné, quatuor cinéphile que je vais présenter sous leur nom. Donc on a Lucas, Louis, Adeline et moi-même. Comment allez-vous, chers camarades ?
Bah ça va très très bien, ça fait extrêmement plaisir de retrouver le studio.
C'est vrai, c'est la première fois qu'on peut enregistrer en studio depuis 3 émissions. Et j'en profite du coup aussi pour saluer Victor qui est à la technique depuis quelques émissions.
Eh bien oui, merci beaucoup à vous, vous êtes tout à fait sympathique.
Alors le film de Ridley Scott, Blade Runner, avait été tiré au sort lors d'une précédente émission, parmi des films que nous avions proposés. Et cela va nous permettre de parler pendant près d'une heure du film en lui-même, et peut-être de sa suite, mais aussi de notre rapport à la science-fiction, peut-être de notre rapport au cinéma de Ridley Scott. Au programme aussi, on aura un blind test, des recommandations, et avant toute chose, un hommage à un grand acteur français qui vient de nous quitter, et dont Louis va nous parler.
Ben oui, parce que cette semaine, à l'heure où on enregistre cette émission, Jean-Pierre Bacri nous a malheureusement quittés. Moi, ça m'a fait un certain choc, ça m'a provoqué une certaine tristesse. C'est un acteur que mon père aimait beaucoup, qui m'a appris à adorer. J'aimerais commencer cette émission avec un petit extrait du Sens de la fête, dans lequel je trouve qu'il est vraiment au summum de son art, et il joue un organisateur de mariage, et là il est face à un couple qui veut réduire un peu les coûts de son budget, et je vous laisse savourer cette magnifique tirade.
Vous n'êtes pas très inventif.
Inventif ? Ah d'accord. Inventif. Alors, voilà. Alors là, pour le coup, il me vient quelque chose d'assez inventif. Oui. On supprime l'entrée, je vous suis là-dessus.
Très
là, bien. Je suis complètement, c'est vrai, c'est une bonne idée. Mais on fait aussi l'impasse sur le plat principal. Et alors, où c'est inventif, vous demandez aux gens d'apporter des Tupperware. Avec des carottes râpées, des œufs durs. Certains préparent des salades à la maison. Vous demandez, par exemple, à quelqu'un d'apporter de la bière, et puis à un autre d'apporter de la limonade, ce qui permet de faire des panachés.
Bon, écoutez, oui. Je crois...
Attendez. Pour la déco, j'ai une idée, mais alors aussi très, très inventive. J'ai ma petite nièce qui fait des guirlandes en crépon orange et vert. Vous pouvez mettre ça sur une table ou alors autour d'une chaise avec des bouts de scotch, ça peut faire un truc joli.
Mais je vois pas pourquoi vous le prenez comme ça, on voulait juste vous dire...
Attendez, excusez-moi, je suis désolé, mais j'ai pas fini. Pour les desserts, je pense que c'est finalement pas si indispensable que ça, les milliardises. On oublie aussi les milliardises. À la place, compote, mais du choix. Pomme poire, pomme fraise, pomme banane. Tout ça servi dans des gobelets avec des... Comment ça s'appelle, les petites...
Des langues de chat.
Voilà, avec des langues de chat. Et servi à la louche. À la louche. Hein, c'est assez inventif, ça. Parce que si vous voulez, je peux avoir d'autres idées. Et là, je vous garantis que vous serez dans la partie mais basse de la fourchette. Vous serez même dans le manche.
D'accord. Ben, on va réfléchir, hein.
Excusez-moi, je me suis un peu emporté.
Un peu emporté, parce qu'il est dans son... Pour moi, dans ce film, au summum de son... De son art et de son à l'apogée de son personnage de râleur tel qu'on le connaissait, un peu dépassé toujours par l'époque ou par les événements. Après, il n'a pas été que cela. C'était aussi des rôles très touchants parfois. Toujours des anti-héros. Il disait qu'il aimait pas vraiment jouer. Il aimait pas vraiment jouer des héros. Il croyait pas vraiment au type éclatant de bonheur, pour le citer. Et voilà, je trouve qu'il était très bon dans différents styles, dans différents films. Je pense aussi au Goût des autres de Agnès Jaoui, dans lequel, bah, pour le coup, il est très touchant. Dans Didier, un film complètement absurde, que je crois Lucas
j'adore Didier.
aime bien. Et bah, justement, enfin, est-ce que vous avez aimé Jean-Pierre Bacri, soit en tant qu'acteur ou en tant que scénariste?
Moi, je te rejoins, Louis, sur le fait que c'est souvent un anti-héros, puisque je ne sais pas si vous avez vu l'archive de Lina. De sa toute première apparition à la télévision, il jouait un méchant dans Maigret avec une moustache qui pourrait faire pâlir les plus grands moustachus de cette table. Mais moi, ce que j'aime beaucoup chez Bakri, c'est son sens du rythme, c'est aussi son sens de l'écriture, puisque, enfin, comme tu l'as cité, il a fait souvent des duos avec Agnès Jaoui et souvent au scénario, et notamment pour les films d'Alain René que tout le monde sait ici, j'aime beaucoup. Et il a écrit Smoking No Smoking, mais aussi On connaît la chanson, et dont il a écrit le scénario, mais il a aussi joué dedans. Et je trouve que, enfin, souvent il a écrit des scénarios dans des films dans lesquels il était lui-même acteur, et je trouve que c'est vraiment un personnage très touchant. Et j'étais, pareil que toi, Louis, très touchée d'apprendre sa mort, parce qu'il est mort très jeune et très soudainement. Et voilà, c'est une grande déception. Je sais pas ce que t'en penses, Nicolas, peut-être, mais.
Bah, personnellement, j'ai vu assez peu de films en fait avec Bakri, mais je retiens, oui, surtout le sens de la fête de Éric Toledano, Olivier Nakache, qui est un film que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le rythme de ce film, justement. Et je pense que le film était aussi réussi grâce au fait que les réalisateurs se calaient sur le rythme de Bakri en lui-même. Et c'est très intéressant l'extrait que tu as voulu passer, Louis, parce que je trouve que ça résume bien en fait l'image qu'on peut tous avoir de Bakri, ce qu'on retiendra peut-être de lui en une minute, quoi, s'il fallait le résumer. C'est un personnage grincheux, assez, qui s'emporte, qui, assez ronchon, mais qu'au final est très touchant à la fin. J'adore ces dernières phrases de bah, « Désolé, je me suis un peu emporté.
Ouais, » avec un humour un peu froid, un peu pince sans rire.
C'est ça, c'est qu'il s'emporte, mais jamais trop. Ça reste toujours grincheux, mais avec un peu de retenue. Et moi, il y a un autre film que vous n'avez pas cité, qui s'appelle « Cuisine et dépendance », qui est vraiment très bon aussi avec lui, si vous aimez un peu ces films de repas d'amis qui partent un peu en cacahuète, parce qu'il y a des secrets qui sont révélés au fur et à mesure de la soirée. Je peux que vous conseiller ça.
Et je pense aussi, enfin, que c'était un des derniers acteurs du cinéma français pour lequel on allait voir un film. Genre, dans le passé, sans non plus les comparer, parce que c'est pas du tout la même carrière, la même importance, mais avant, on allait voir peut-être un Bébel, un Gabin, et là, on allait voir un Bakri, même si c'était d'un autre réalisateur, même si c'était pas lui le personnage principal, on allait, beaucoup de gens, enfin, le public allait voir le film pour Bakri en lui-même, pour la stature de l'acteur. Et donc oui, je pense que c'est une sacrée perte pour le cinéma français.
Non, c'est très juste ce que tu dis, oui.
Et donc voilà, ben on vous encourage. Il y a pas mal de chaînes publiques qui ont profité de l'occasion pour repasser des Bakri.
Ouais.
Donc je ne sais pas si quand l'émission sera diffusée, elles seront encore disponibles. Mais je pense qu'On connaît la chanson, est disponible pendant quelques semaines. Donc on vous encourage à le voir.
Tous les Rennais sont.
Didier, évidemment.
De sentir le cul des femmes, Didier. Très belle réplique.
Alors, je crois que Louis avait visité avec cette.
Ouais,
cette
on extrait. Ne sent pas le cul.
Ok, une très belle leçon de vie. Et donc merci beaucoup, Louis. Et sans transition, on passe tout de suite au film du mois. Qui n'est pas un film français, qui n'a pas Jean-Pierre Bakri, mais qui est sorti en 1982. A Blade Runner's job is to hunt down replicants, manufactured humans you can't tell from the real thing. What's this? Roy Batty, probably the leader. There was just one outfit making replicants that superhuman, the Terrell Corporation. I was looking for six replicants in a city of 106 million people. What I didn't know was, they were looking for me. Donc après cette bande-annonce d'époque, je ne peux te demander qu'une seule question, à toi Louis encore. Pourquoi avoir choisi ce film en particulier ?
Ben, c'est vrai que j'avais inscrit le nom de Blade Runner, parce que pour moi c'est un film de science-fiction totale, dont la question qu'il pose, les questions dystopiques, toute la pertinence dystopique, et surtout la réussite et la beauté visuelle du film, influencent encore aujourd'hui... énormément de production du genre, et c'est pour ça, c'est un chef-d'œuvre dont je voulais vraiment qu'on parle. Et puis, je trouve que dans ce film, il y a une longueur contemplative qui est assez inhabituelle dans les films de science-fiction, et moi qui suis très fan de ce genre de scène parfois où on est juste là pour la beauté des plans, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas dans tous les films de science-fiction, il y en a beaucoup dans celui-là, et c'est pour ça que je voulais qu'on aborde ce film aujourd'hui.
Je suis tout à fait d'accord avec toi pour la vision que tu as de Blade Runner. Je pense qu'on a des avis un peu divergents autour de la table. Mais avant peut-être de donner vraiment nos avis, notre critique sur le film, j'aimerais vous demander quand avez-vous découvert Blade Runner ? Donc Louis, du coup.
Eh ben moi, j'avais découvert Blade Runner il y a quelques temps de cela. Mais je l'ai revu du coup pour cette émission. Et surtout, bon, on aura le temps d'en parler tout à l'heure, j'avais très envie de revoir Blade Runner. De voir, pardon, pour la première fois Blade Runner 2049. Donc la suite. Mais je l'ai découvert il y a peut-être un an et quelques.
Lucas, toi, tu l'as découvert dans cette période, à peu
près ? Oui, pareil que Louis, je pense il y a 3-4 ans, et je l'ai revu pour l'émission, donc j'étais pas du tout dans cet esprit de choc, enfin de découverte que ça devait être à l'époque de voir un film comme ça. Et on va voir que ça, du coup, m'a peut-être un peu déçu, on en reparlera.
Adeline, toi, je sais que tu as découvert dans un état un peu secondaire.
Oui, alors moi, je l'ai vu pour les besoins de l'émission, mais j'avais très envie de le voir, un peu pareil que Lucas, mais du coup, je l'ai vu alors que je ne le savais pas encore, mais j'étais atteinte du Covid, et peut-être un peu délirante, et je délirais dans mon lit en voyant tous ces répliquants, etc. Et ça a été une expérience très, très dure, mais très intéressante aussi. Et par contre... J'ai une seconde question, alors peut-être Nicolas, après tu vas nous demander, enfin tu vas nous dire quand est-ce que tu l'as vu toi aussi, mais ma question aussi c'est quelle version avez-vous vu ? Parce qu'en faisant mes recherches, en fait j'ai vu qu'il y avait énormément de versions et en fait je me suis intéressée parce que je pense que la lecture qu'on a du film est très différente selon les versions qu'on a vues et je pense que ça a joué aussi dans mon appréciation du film.
Bah justement, la question des versions rejoint, c'est la question de comment j'ai découvert. Donc merci pour cette perche. Moi j'ai découvert au tout début de ma cinéphilie, enfin au début de la période où je commençais vraiment à m'intéresser beaucoup au cinéma et à comment on fait les films. Et donc j'avais vu pour mon anniversaire, pour mes 15 ans, un coffret, Blu-ray évidemment, avec une petite voiture et un petit livret avec des petits dessins de Blade Runner. Et dans ce coffret, il y a toutes les versions du film. Généralement il y a 5 disques avec toutes les versions du film. Et un documentaire très long sur les différences entre les différentes versions du film, ce qui change, les différents points de vue de l'équipe dessus. Et donc c'est un film que j'ai découvert donc, en tant que tel, en tant qu'objet, et que j'ai adoré, mais que j'ai aussi découvert avec tout ce qu'il y a derrière. Donc j'ai pu voir les différentes fins, les différentes étapes de fabrication, les différentes étapes de restauration du film. Et donc je pense qu'on a quand même tous vu le même film, la même version du film, car c'est celle qui est disponible partout. C'est la Final Cut, donc, qui a été ressortie et montrée pour la première fois au public en 2007, et qui est disponible donc sur Netflix. Donc je pense qu'on a tous vu la même version à peu près, et avec tous la même fin.
Ok, mais du coup, il y a combien de versions qui existent ? Enfin, je sais pas si tu étais au courant.
En fait, dans ce coffret, il y avait aussi des versions de travail, des versions censurées ou non censurées. Mais en gros, de versions, il y a celle qui est sortie au cinéma, avec une happy end où on voit donc Rick et Rachel partir au loin dans l'horizon, une happy end un peu étrange qui a été tournée aussi en partie grâce à des plans de Shining, de l'ouverture de Shining. Voilà. Ensuite il y a eu quelques différences avec cette version, donc il y a eu des versions internationales où il y avait 3 minutes en plus de scènes un peu violentes, par exemple lorsque le robot que joue Rutger Hauer se plante un clou dans la main.
Wow.
Rory.
Je vais faire tous les personnages. Très bien travaillé.
Donc il y a cette version internationale, entre guillemets, mais c'est plus ou moins la même version. Et avec une voix off aussi de Harrison Ford, on reviendra dessus plus tard. Et ensuite, dans les années 90, il y a eu une version Director's Cut, avec déjà vraiment des scènes que voulait rajouter Ridley Scott, la vraie fin, sans la voix off. Et enfin, il y a eu cette Final Cut avec des petits ajustements, mais c'est plus ou moins la même version. Donc en gros, on va dire qu'il y a deux versions. Il y a la version Happy End et la version qu'on a vue.
Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Je t'en prie, c'est un sujet qui me passionne, donc merci encore Louis d'avoir choisi ce film. Et c'est un film de science-fiction, donc peut-être qu'on peut juste savoir, pour savoir votre appréciation du film aussi, je pense que c'est important de savoir votre rapport à la SF. Lucas, toi, est-ce que c'est un genre que tu affectionnes ou pas ?
Non, bah après, comme on se l'était dit à la dernière émission, on n'aime pas trop classifier les films en genre et ça, mais c'est vrai que si je devais choisir un genre pour lequel j'ai un peu moins d'appétence, ce serait la science-fiction. C'est comme ça, il n'y a pas vraiment d'argument derrière ça. Même si, j'ai vraiment, pour moi, il y a des chefs-d'œuvre de science-fiction comme Under the Skin. Je sais que tu partages cet avis, ou même le meilleur Spielberg qui est La Guerre des Mondes. Je sais que je vais pas me faire des amis, mais voilà, c'est comme ça. On pourra peut-être en reparler une autre fois. Mais voilà, je suis rarement impliqué dans la science-fiction. En fait, moi, j'aime bien le concret, le réel. Donc, forcément, la science-fiction, c'est son essence de ne pas être le réel. Donc, ça me passionne moins.
Ceci dit, je pense que tu adores un film qui est de la SF, qui est Les Fils de l'Homme.
Oui, j'aime bien j'aime beaucoup Les Fils de l'Homme. Ouais, non, mais bien sûr qu'il y a des films de science-fiction que j'aime bien. Bien sûr.
Après, moi, je pense pas que ce film. Bah, je te rejoins, Lucas, sur le fait qu'on peut pas uniquement conditionner ce film à de la science-fiction. Parce que moi, je suis une grande fan de science-fiction, par exemple. Et même si je comprends que ce film, en fait, il ait initié plein de choses sur la science-fiction et plein de choses sur le cyberpunk et tout cet univers, etc. Le premier film auquel il m'a fait penser, c'est Chinatown, étrangement.
Oui, bah oui.
Pour le côté univers, un peu étrange, un peu dangereux, mais en même temps mystérieux, et le côté vraiment polar. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'univers de la SF. Et donc, c'est pour ça que je pense que j'ai moins aimé ce film, parce que j'aime beaucoup la SF. Et j'aime beaucoup la SF de Ridley Scott en plus. Mais pourtant, en fait, j'ai été un peu coupée, parce que j'ai trouvé que peut-être aussi le côté de le voir plus tard, et du coup d'avoir déjà les références d'autres films qui se sont inspirés de lui, m'a un peu coupée. Mais je pense que, effectivement, il a apporté beaucoup. Mais il a aussi empêché beaucoup pour la science-fiction, ce film. Parce que la science-fiction, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir inventer des univers. Et que là, il a posé un univers qui était l'univers de la science-fiction dans les années 80. Et que maintenant, je trouve qu'il ressort beaucoup dans ce qu'on peut voir et tout. Enfin...
Je pense qu'on peut reprocher aux films qui lui ont succédé. Mais moi, ce qui me plaît justement dans ce film, c'est ce qui ne te plaît pas, c'est que c'est un film noir avant d'être un film de SF. Ça, ça se voit vraiment à tous les plans. L'éclairage, c'est...
Il y a une ambiance de film noir, mais oui. C'est assez dingue.
Mais c'est vraiment des stries à travers les volets, des effets de lumière, des effets de fumée. Et Ridley Scott lui-même voit Rick Deckard comme un Humphrey Bogart du futur, il l'a dit, déjà. Et en plus, ça a été tourné donc, le film à Burbank, donc, à côté de Los Angeles, dans un décor new-yorkais qui était utilisé pour les films noirs à l'époque. Donc c'est vraiment, à tous les niveaux de la production,
ça se ressent complètement, ouais.
Ça se ressent et c'est revendiqué même.
Oui,
et
peut-être aussi la date. Enfin, ce que j'ai trouvé assez rigolo, c'est que du coup, la date, bah, le film commence en 2019, ce qui n'est pas si vieux. Et pourtant, bah, ok, le film est sorti en 1982, mais je trouve que 2019, c'est quand même très proche de 2019. Enfin, 1982 et 2019, c'est
40
pas
ans,
si loin. Oui, mais c'est pas
oui,
si loin.
Il y a des
pour
films
imaginer...
de SF qui vont beaucoup plus loin, oui, ça va.
Pour imaginer des voitures volantes, pour imaginer des trucs comme ça. Et du coup, je trouve que ça aide aussi au film parce qu'en soi, il est très terrien. Notamment les marques. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Certaines ont disparu, mais d'autres persistent.
Mais j'ai lu, en fait, qu'il y avait une malédiction sur ce film et les marques qu'il y avait dans le film, en fait, parce que toutes les marques qui sont présentes dans le film, en fait, Ridley Scott était un ancien publicitaire, il a fait du vrai placement de produits, genre les marques ont acheté des empreintes sur ce film, et toutes les marques qu'il y a eu ont fait faillite. Et c'est fou, genre je ne savais pas du tout, et du coup c'est un peu la malédiction liée à Blade Runner. Voilà.
En fait, je crois que les marques payaient pour fabriquer leur décor. C'est ça, je crois qu'on a eu le même article. Les marques payaient vraiment pour fabriquer leur décor, mais ne payaient pas le film entre eux, mais avaient de l'exposition.
Ouais, c'est fou, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, parce que c'est de la SF, mais en même temps, c'est tellement ancré dans le réel, d'avoir une pub Coca-Cola ou des choses comme ça, il y a un réel... Enfin, je trouve que dans la SF, il y a quelque chose d'imaginé, et là, il y a quelque chose qui n'est pas forcément toujours... Enfin, c'est très ancré dans du réel, ce qui...
Après, pour revenir à ce que tu disais, Nico, moi, ce qui me plaît, c'est vraiment la lumière qu'il y a dans le film. Comme tu dis, très sombre, avec une petite lumière qui passe à travers les stores. Les néons aussi, des publicités qui apportent qui sont les seuls éclairages un petit peu sur cette ville où la pluie est battante et où c'est très grouillant, c'est sale. Et je trouve que c'est cette ambiance-là qui m'a tout de suite, moi, permis d'entrer dans le film.
Ben justement, on va entendre ce qu'en pensaient les critiques du Masque et la Plume à l'époque.
Mais cela dit, c'est vrai que le scénario de Blade Runner n'est pas formidable. On pouvait en tirer quelque chose de... Si on pouvait le développer, on pouvait approfondir. Mais il y a quand même l'élément image. Et l'élément image, ça n'est pas seulement une question de décorateur, c'est pas seulement une question d'effets spéciaux, c'est aussi une question de mise en scène. Et il y a le fait que Ridley Scott est capable d'organiser du commencement à la fin cet univers extraordinaire, ce Los Angeles où il pleut tout le temps, où tout pourrit lentement, etc. Cet univers de désespoir extrêmement pittoresque en même temps, tout à fait morbide et glauque comme le dit Mardor, ça c'est vrai. Mais ça tient debout. On peut pas en dire autant de la plupart des superproductions américaines qu'on voit depuis quelques années, parce que ce sont des choses qui font de l'effet, il y a beaucoup d'esbrouf, etc. On en a plein la vue, puis on se dit à quoi bon. Tandis que là, c'est un univers qui reste, qui vous colle à la peau, dans lequel on a l'impression de marcher, on patauge avec les figurants qui sont là-dedans. Ça, c'est une expérience qui vaut la peine d'être vue, d'être vécue et même sentie.
Alors toi, Lucas, est-ce que tu as cet univers qui te colle à la peau ou pas?
C'est marrant parce que je vous écoute depuis tout à l'heure et je suis d'accord avec vous, mais pour moi, ça n'en fait pas un chef-d'œuvre ou un film culte. Moi, vraiment, pour moi, effectivement, le point fort du film, c'est son univers. C'est, voilà, tu le regardes, tu le sens sale. En plus, il y a beaucoup de pluie, j'adore la pluie. Mais voilà, c'est pas parce que, pour reprendre vos mots, c'est pas parce qu'on met de la lumière à travers des rideaux que ça en fait tout de suite un chef-d'œuvre. En fait, moi, ce qui m'empêche de voir ce film comme vraiment un chef-d'œuvre, voilà, c'est qu'il y a, quand j'y repense, il y a vraiment aucune scène qui m'a marqué, qui ressort du lot pour moi. Bon, vous allez sûrement parler de la scène finale sur le toit après, mais même ça, je m'en foutais en fait. Et Alors que comparé au, à Blade Runner 2049 auquel on, sur lequel on reviendra tout à l'heure, là il y a au moins une scène qui moi m'a vraiment fasciné. Et là, désolé, Blade Runner, à part un univers, effectivement, l'archive le dit assez bien aussi, très, très pesant, très sale, voilà, bah, il n'y a pas grand-chose d'autre pour moi. Le questionnement est intéressant. Bon, c'est le fameux mythe du soulèvement des machines. Qu'est-ce qu'un humain? Qu'est-ce qu'un robot? Est-ce que je suis humain? Mais voilà, il y a un questionnement, un bon univers. Et pour moi, ça manque quand même vachement d'idées de mise en scène ou de... d'émotions, j'ai rien ressenti en fait devant ce film.
Je suis assez d'accord avec toi sur l'émotion, c'est-à-dire que moi j'ai pas ressenti grand-chose, et notamment parce que je pense que les personnages sont pas extrêmement construits, même les réplicants en fait on se base uniquement sur leur fait que leur vie est assez courte et que du coup bah ils vont pas pouvoir, enfin je trouve qu'il y a aucun passage où on a une vraie idée des émotions, etc. Après je pense que c'est pour ça que je vous ai demandé aussi quelle version vous avez vue, mais je pense que le film souffre de son aura et de tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la fin, on en parlera peut-être plus tard, mais les trucs qu'il y a derrière, toutes les théories, etc., que moi j'ai pas vu et que je me suis rendu compte qu'il y avait des scènes dont on parlait dans des articles que j'avais même pas vu dans le director cut, là je sais pas s'ils étaient ou pas, parce que peut-être que j'étais trop délirante, enfin, et j'en ai parlé hier avec quelqu'un qui m'a dit que Blade Runner fallait le voir un peu trois fois, genre une première fois ne pas l'aimer. Une seconde fois, confirmer le fait que ça marchait pas, qu'il y avait un truc que tu comprenais pas, mais que tu voyais les éléments. Et la troisième fois, en te focalisant sur l'idée de mémoire, sur les thèmes, sur les choses comme ça abordées. Et qu'effectivement, en fait, il remplissait plein de choses, mais qu'il fallait se dire que nous, on le voyait avec tout ce qui s'est fait après. Et que du coup, forcément, en comparaison, moi j'adore le cinquième élément, par exemple. Mais le cinquième élément, bon, soit. Mais le cinquième élément... il a tout pompé à Blade Runner en vrai, tu vois. Mais il y a un truc qui est avec l'humour et les choses comme ça qui sont un peu plus. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu plus catchy. Enfin, je.
Putain, je sais pas où t'as vu cet argument du revoir le film trois fois pour aimer, mais pour moi, voilà, pour moi, voir un film, c'est une expérience unique. Il y avait eu le même débat sur Tenet cet été. Plein de gens disaient non, mais va le voir deux fois, tu vois. Tout coup, bah non, je veux juste voir un film une fois et s'il me prend pas, tant pis. Il faut qu'il me happe tout de suite, quoi.
Bah, justement, je suis d'accord avec Lucas de le fait, c'est voir un film plusieurs fois, c'est pas un argument valable. Moi, ce qui me plaît justement dans Blade Runner, c'est que à chaque fois que je le vois, ça me plonge dans une ambiance, dans un état en fait, un peu comme 2001, même si je préfère 2001 pour comparer deux films de SF. Où je suis d'accord avec toi, Lucas aussi. Il y a pas de mise en scène en fait très appuyée. C'est de la mise en scène très esthétique, du cadre, de la lumière, de la méticulosité. Il y a pas des idées de plans, d'enchaînement, de montage incroyable, mais il y a Ridley Scott, il maîtrise en fait un rythme, et c'est ce rythme qui me plaît dans le film, qui est que le film, en fait, je vois jamais passer. Je trouve que chaque scène est à sa place, chaque scène se comprend émotionnellement, et quand tu parles justement, toi Adeline, tu trouves qu'il n'y a pas d'émotion chez les répliquants, au contraire, moi j'aime beaucoup cette émotion retenue, et cette simplicité de dire en quelques mots. C'est un film qui n'est pas très bavard, que je trouve non plus pas très long, et en une ou deux phrases, on comprend en fait tout ce que ressentent les répliquants, et... pour citer Michel Simon sur Eyes Wide Shut, je sais pas pourquoi cette citation bien, qui est attention un peu vulgaire, il parlait de Kubrick, et là je parle de Ridley Scott, il disait Kubrick ne distille pas une émotion de putain dans Eyes Wide Shut, parce qu'en fait ouais, Ridley Scott n'en fait pas beaucoup, mais avec ce peu qu'il fait, vraiment moi ça touche pile au bon endroit.
Je te rejoins totalement là-dessus, Nico. Moi aussi, c'est quelque chose de très diffus en fait, qui n'a pas besoin d'être grandiloquent, d'être imposé. C'est des questionnements ou des émotions qu'on ressent à travers juste des regards ou même quelques phrases, mais pas beaucoup. Il en faut peu. Et je partage totalement ton expérience du film de ce point de vue-là.
Et même pour en revenir à l'esthétique, donc cette ampleur visuelle déjà avec des effets spéciaux qui n'ont pas vieilli, ce n'est pas un critère pour jouer des films, mais je trouve vraiment que cette ambiance, c'est vraiment que des maquettes avec des petites trucs optiques dedans pour faire des petites lumières. Mais vraiment, ça a une ampleur avec cette pluie et tout. C'est... Moi, je suis dedans à chaque fois. Et c'est aussi, faut saluer Douglas Trumbull qui a fait les effets spéciaux de ce film et qui est un maître donc, qui a travaillé sur 2001 et qui a mis tant de lui dans ce film, en fait, tant de dévouement de lui et tous les techniciens, que c'est un travail qui est unique et qui donc oui, comme tu le disais Adeline, a infusé dans tout le reste du cinéma, c'est incroyable.
Et par ailleurs, il y a le grand Manitou un peu de la SF qui est Moebius, qui du coup avait fait les décors de Alien de Ridley Scott, oui. Et qui, dont Ridley Scott s'est un peu inspiré pour les décors de Blade Runner. Et donc il n'a pas participé directement dessus, mais en fait il faut se dire que quand même Moebius il a une grande influence sur toute la SF, on le verra après avec Dune de Jodorowsky. Et en fait ce qui est super intéressant c'est que dans ce travail là, enfin alors on reconnaît vraiment cette idée un peu de la BD, de la BDSF, et vraiment ce détail. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans le travail de Moebius, c'est les couleurs qui sont très néons, justement, encore une fois. Mais aussi, en fait, c'est vraiment cette idée du détail et cette idée, en fait, de toutes les choses. Par exemple, à la fin, alors c'est quelque chose qui, dans le scénario, n'a pas été suivi, finalement, mais le réplicant Roy, il a des tatouages. Et en fait, ça a été supprimé au scénario, mais normalement, il y avait un vrai truc sur son histoire de ses tatouages, etc. Et en fait, ils ont décidé de le garder pour garder une part de mystère, et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et c'est ça que je dis quand... Moi, j'ai pas aimé le film quand je l'ai vu la première fois, Blade Runner, la seconde fois, je l'ai pas aimé non plus. Mais pour autant, j'ai aimé travailler dessus. Genre, j'ai aimé découvrir les passages, j'ai aimé découvrir comment ça avait fonctionné, et c'est pour ça que je pense que j'affectionne ce film maintenant, en ayant appris un peu... tout le fonctionnement, le fait que, par exemple, pendant le tournage, ça se soit mal passé. J'ai adoré ça. Oui. Genre, j'ai adoré l'idée que Ridley Scott soit un gros connard. Enfin, genre, vraiment.
En fait, c'est les techniciens anglais qui ne s'entendaient pas avec lui et qui avaient même fait des t-shirts « J'ai survécu à Blade Runner ».
Non, c'est le contraire. C'est qu'en fait, les techniciens anglais se sont très bien entendus avec Ridley Scott. Et tout le monde le saluait en disant « Hey, Gouv ». Et dans une interview à la télé, il a dit « Je préfère travailler avec les Anglais parce qu'ils sont beaucoup plus gentils. » Et quand il est revenu aux États-Unis, où ça s'était très mal passé, ils avaient tous des t-shirts où il y avait marqué « Salut gouverneur, connasse, tu vois. » Et du coup, ça s'était vraiment mal passé. Harrison Ford a failli partir. Et c'était vraiment très chaud. Et je crois que...
Après, justement, sur le fait d'aimer travailler dessus, c'est parce que c'est un film qui pose beaucoup de questions et qui n'apporte pas forcément de réponse. J'avoue, oui. Moi, m'être demandé oui ou non, Rick Deckard était un répliquant ou pas, et c'est un film qui n'apporte pas ce genre de réponse. Et toi, Lucas, tu parlais de 2049 que tu as préféré. Je trouve que c'est subtil dans Blade Runner et que c'est beaucoup plus explicite dans Blade Runner 2049.
Je demande... Vas-y, Lucas.
Après ça c'est une réponse à une question, c'est plus scénaristique comme élément. Pour moi c'est vraiment en termes de mise en scène que je comparais d'eux. Après attention, hein, moi je trouve que Blade Runner est un film très correct, hein, j'ai quand même passé un bon moment, pour moi ça reste un bon film, mais en correct.
Bon, de toute façon on va reparler de Blade Runner 2049 bientôt, mais juste pour rebondir sur ce que tu disais Louis, c'est vrai que le fait qu'il ne réponde pas aux questions... qui est un quoi, même si c'est un peu changé avec ses différentes versions, ses fins du film, etc. Par exemple, une partie scénariste disait que Rick Deckard n'était pas un répliquant. Harrison Ford, lui, n'a pas compris le film, en fait. Il était là, il s'en foutait, il n'était pas très bonne humeur sur le plateau. Il a toujours été un peu réticent à parler de Blade Runner. Mais même cette volonté de ne pas répondre à des questions, ça se ressent dans l'esthétique dont tu parlais auparavant. Puisqu'on est dans un genre de Chinatown. Les personnes parlent un mélange entre japonais et espagnol, on comprend pas pourquoi, mais c'est pas grave en fait. Et on n'a pas besoin de comprendre pourquoi pour être immergé dedans. Et c'est pareil pour tous le moindre élément de décor de Blade Runner, ce qui en fait justement que le film vit, ce qui je trouve n'est pas le cas à 2049, on en parlera plus tard. Le film a vraiment une densité et une vie en lui qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'autres films, même qui ont été inspirés par Blade Runner.
Ouais. Et sur la question de la subtilité, encore une fois, j'ai l'impression qu'il implante des choses en toi de la même façon qu'il implante des souvenirs ou des choses dans la tête des réplicants. Donc je trouve que c'est assez intéressant à ce niveau-là aussi, de mélanger un peu le fond, la forme.
Je pense que tu as bien résumé Blade Runner, donc vous aurez compris, on n'est pas tous d'accord. Mais avant de passer à la suite du débat, où on parlera plus du cinéma de Ridley Scott et de Blade Runner 2049, voire de l'héritage peut-être de Blade Runner, on va jouer un petit jeu, et cette fois-ci ça ne sera pas un jeu des critiques de cinéma comme l'autre fois, mais un blind test, et c'est Lucas qui va bien sûr s'en charger.
Nous allons jouer à un jeu.
Not a chance.
On va arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre.
One, two, three.
Je vous propose un autre jeu plutôt. Vous connaissez un jeu auquel je gagne toujours.
Oui, donc effectivement, Nicolas, un petit blind test en ce dimanche. Évidemment, blind test de musique de film, musique originale de film, c'est important. Donc j'attends le nom du film, et puis si en bonus, vous avez peut-être le compositeur ou le nom de la musique en particulier, c'est encore mieux, mais ça ne vous fera pas de points bonus. Donc vous êtes trois, pour prendre la parole, vous dites votre prénom, et j'interrogerai évidemment le premier qui pense avoir trouvé la bonne réponse. Et donc on commence avec le premier film.
Nicolas ? Les 400 coups ?
Et c'est effectivement les 400 coups. Très impressionnant. Est-ce que tu as le nom du compositeur ?
Michel Magne ?
Non, pas du tout.
C'est pas Michel Magne. Je confonds.
C'est Jean Constantin. Bravo à toi. Je pensais que Louis allait trouver. C'est ton film.
Un de mes films préférés.
Un de tes films préférés, c'est vrai. Bien joué à toi, Nicolas.
Merci.
Et on passe du coup au deuxième film.
Oui, bah oui. Oh. Nicolas.
Ah bah, pardon. Vas-y.
Il était une fois dans l'Ouest. Par Ennio Morricone, harmonica.
Il suffit de quelques notes pour cela.
Je l'ai mis parce qu'on peut souvent confondre après tous les Léon et les Morricone. Troisième film maintenant, peut-être un peu plus dur au début.
On est sur le starting block.
Ça va aller très vite. Bientôt.
Ça, c'est stressant.
Le oui. Drop arrive.
La scène est un peu stressante.
Ah, Nicolas. Eyes Wide Shut.
Bah oui.
Oh. Okay.
Évidemment, Jack Love arrive. Eyes Wide Shut, donc une musique de Jocelyn Pook, donc intitulée Masked Ball, et une scène évidemment d'anthologie de une quinzaine de minutes. Absolument inclassable, mais
dédicace à Michel Simon qu'on citait plus tôt.
Effectivement. Ouais. Et donc, c'est maintenant l'heure de la quatrième musique.
Nicolas,
Whiplash. Whiplash. Mais ce n'est pas la musique de notre générique.
Non, qui s'appelle Caravane dans notre générique.
Effectivement.
Bah, je pense, Louis, il faut qu'on s'allie.
Attends, j'ai vu la cinquième sur l'écran.
Alors,
mais disons que je les ai, mais quelques secondes
moi,
après.
Je suis vraiment nul pour découvrir des trucs comme ça.
Donc la cinquième, Nicolas ne participe pas parce qu'il a vu, il a triché.
Il a triché avant déjà. C'est pour ça qu'il a tout gagné.
Mais on passe donc à la cinquième musique.
Adeline.
Footloose. Louis, Footloose.
Non.
Over the Limit, Scarface.
Allez, c'est accordé, mais avec la barre. Bah, Scarface, bien sûr, Push It to the Limit, tout, de Paul Engelman, je ne sais pas. Bien joué à toi, Louis. On passe donc à la sixième musique. Ah. Nicolas est de retour dans le jeu.
Oh. Nicolas
Méline.
On l'a tous, je crois.
Vous l'avez tous dit en même temps. Allez, bah dites-le en même temps.
City of
Stars dans La La Land.
Plagié sur un film de Demi. Voilà.
Étonnant donc. C'est un film de
Demi. C'est le thème des Demoiselles de Rochefort, si vous voulez tout savoir.
Ah bon,
c'est le thème du couple Piccoli et la mère.
Monsieur Dame.
Monsieur Chazelle aime bien Monsieur Demi.
Et oui.
Monsieur Dame et. J'ai oublié le nom de la mère.
Yvonne, voilà.
Oui, je connais bien la Demoiselle de Rochefort.
Et donc, on passe à l'avant-dernière. Tu peux y aller.
Bah, Nicolas.
Tu l'as dit. Tu l'as dit.
Oui, mais moi, j'arrive pas à dire mon prénom.
Ah ouais, ça, c'est problématique.
Le mépris.
Et bah oui.
Et c'est Delerue.
Delerue. Et le thème de
Camille.
Le thème de Camille.
Dans Casino aussi, évidemment.
On ne s'en va jamais.
C'est vrai.
Je te laisse couler un peu.
C'est pas la première fois qu'on l'écoute dans cette émission.
Ah, non,
c'est vrai qu'on est un peu fan.
Je me sentais obligé.
Je crois que tu n'aimes pas ce thème, non, Adeline?
Je n'aime pas du tout ce thème. J'aime pas trop cette musique, mais
sauf
on la
dans Casino.
On a tous nos défauts.
Sauf dans Casino, parce qu'on pourrait l'appeler le thème de Robert, tu vois.
Évidemment.
Et on passe déjà à la dernière. J'adore. Ah, si vous l'avez pas maintenant, à mon avis, vous l'aurez jamais, parce que c'est ça pendant 2 minutes.
Est-ce que c'est français ?
Non, c'est pas français. À mon avis, vous l'avez tous vu, c'est un film culte. C'est pas le thème principal du film, mais il y a une scène dans ce film qui est marquante et c'est cette musique qui est utilisée dedans.
Est-ce que c'est un policier ?
Il y a une histoire de police dans ce film. Il y a une histoire de braquage, et c'est notamment utilisé dans le braquage.
Hit ?
C'est dans Hit.
Ouais,
c'est la musique de Hit. Je pensais que ça allait fuser, mais en fait non, il y a peut-être que moi qui adore ce mini-thème.
Faudrait que je revoie Hit.
C'est une musique de Brian Eno, le grand Brian Eno.
Qui a collaboré avec David Bowie plus d'une fois, Brian Eno.
Oui, j'ai vu il y a quelques semaines Hit, et j'ai beaucoup pensé à toi Nicolas parce que j'ai vraiment adoré, genre vraiment j'ai trouvé ça génial et je l'avais jamais vu et vraiment j'ai été très touchée.
C'est marrant parce que moi je ne l'ai vu qu'une fois et je n'ai pas du tout adoré.
C'est vrai,
j'étais déçue à l'époque, mais il faut que je revoie.
Pourquoi j'ai pensé
peut-être
à toi,
avec l'argument des trois visionnages tu finiras par
c'est ça, c'est ça.
Mais par contre c'était très surprenant, bon c'est un peu histoire
j'ai
de radio
pour le book de Robert
pour le book, mais c'est terrible. Et en fait il y a un extrait qui est utilisé dans un générique de radio. Et du coup, ça m'a fait un peu des pics dans les bras quand j'ai entendu cette réplique. C'était très bizarre. Voilà. Je vous conseille de regarder Hit et d'écouter un générique de radio et vous verrez la différence. En version française, parce que sinon, c'est pas rigolo.
En tout cas, ce blind test est terminé. Bravo, Nicolas. Je pense qu'une fois de plus, tu remportes la main le jeu, même s'il y a eu un peu de concurrence.
Parce que tu triches.
Je n'écoute pas les rapides.
C'est de la culture et de la rapidité.
Exactement.
Et de la triche. Un petit peu.
Eh ben, sans transition, on va passer à la deuxième partie du débat et de l'émission. Puisque maintenant que chacun a donné son avis et sa vision de Blade Runner, peut-être est-ce qu'on peut s'intéresser à l'héritage et à la postérité du film. Mais juste avant, on va s'écouter la musique de Blade Runner, peut-être pour se remettre dans l'émission, dans l'émotion, après tant d'émotions, dans le film, quoi. Je ne sais pas ce que je dis. Et donc, c'est le thème de Rachel qui dure une trentaine de secondes. Et avant de parler de Ridley Scott, donc je vais vous proposer une petite archive de 1988. Je ne sais pas quelle est votre relation à Ridley Scott, mais là on va l'entendre parler d'un film que je n'ai pas vu, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Traqué. Adeline, l'as-tu vu ?
Je te connais de nom, mais c'est vrai que je me suis un peu replongée dans la filmographie de Ridley Scott et je me suis dit que c'était très protéiforme.
Et bien justement, là il parle de ce film et de différentes fins, ce qui va nous intéresser notamment pour la question des différentes fins de Blade Runner et du rapport de Ridley Scott au studio. Donc c'est une archive de 1988, trouvée encore une fois sur le site de l'INA, dans lequel le réalisateur est au micro de ce cher Thierry Ardisson dans l'émission Bain de minuit.
Ça doit être un problème quand même pour un artiste de concevoir trois fins possibles et puis de devoir choisir en fonction, je sais pas moi, du marketing, des tests, de la position des major companies. Le choix qu'on doit faire à la suite des tests sur le marché, comme un peu aux États-Unis, est tout à fait justifié. Moi, je suis d'accord, parce que c'est comme, je sais pas moi, si pendant la première d'un film, devant un public de 900 personnes, 600 personnes, ils disent j'aime pas ou j'aime. Bah, il faut en tenir compte, sinon on est vraiment des cons, quoi. Parce qu'ensuite, les gens, ils oublient toujours que nous, on fait marcher une industrie. Les gens, ils parlent du cinéma comme d'un art. Et moi, je crois que seulement dans certains cas, les films, ils durent assez longtemps pour qu'on les considère comme des œuvres d'art. La plupart du temps, quand il s'agit d'un travail de professionnel, certains films, ils marchent bien. Et d'autres, ils marchent pas. Et il est vital que nous, on ait des films qui se vendent. Et quoi, quoi, sinon, c'est la fin de l'industrie.
Est-ce que ce serait Serge Chantel qui a doublé ça ?
Alors, je vous jure, c'est une vraie archive. Je ne l'ai pas doublé. Le cœur de ma famille ne l'a doublé. Mais comme le dirait Ridley Scott, au compte, c'est la fin de l'industrie.
Bon.
Je savais que cette archive allait vous plaire. L'archive dure 6 minutes et c'est ça pendant 6 minutes.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais Thierry Ardisson, il a...
Je ne sais pas. Déjà, c'est enregistré dans une boîte de nuit. C'est très bizarre comme interview.
Ah. Ça lui rajoute un certain charme après tout.
Évidemment, donc si je vous dis Ridley Scott, quel film pourriez-vous me citer de Ridley Scott ?
Alien, forcément.
Alien, toi Louis, est-ce que tu as...
Eh bien justement, la planète Mars, Marseille, Seul sur Mars. Moi c'est Seul sur Mars que j'ai vraiment beaucoup aimé, peut-être avec un petit peu de surprise, parce que c'est pas son plus grand chef-d'œuvre, mais personnellement c'est ça.
Et toi, Lucas, tu as un petit chouchou?
Non, honnêtement, je crois pas avoir vu énormément de Ridley Scott. C'est limite Blade Runner, en fait, celui que j'ai... Parce que Alien, moi, j'accroche pas. C'est... Et encore, je pense que celui de Ridley Scott est le meilleur.
Oui.
Mais la suite de la saga, pour moi, c'est un non-sens total, mais bon.
Et encore, tu n'as pas vu Alien Covenant?
Ah si, et j'ai limite préféré à la suite de la saga Covenant et Prometheus. Mais bon, moi, de toute façon, c'est ma journée hérésie aujourd'hui. Donc...
Ouais,
mais j'assume, non, mais j'ai mes arguments, mais bon, là, on n'aura pas le temps.
Ah, mais j'aime Prometheus. Personnellement, j'aime Prometheus.
Ouais, okay. Moi aussi.
Voilà, bah,
je pense que c'est pas une si grande hérésie sur tout ce qui a existé avec Alien par rapport à Alien versus Predator. Finalement, on peut.
Ah oui, non, mais ça, j'ai pas vu.
Et du coup, Seul sur Mars, lui, c'est un film que t'as affectionné ?
Que j'aime bien, parce que là encore, c'est assez contemplatif, je trouve. Et j'aime bien quand il y a en fond comme un genre d'odyssée, un peu quelque chose de très ulysséen, et c'est ce que le personnage représente dans ce film. Et je l'avais vu au cinéma et j'ai été vraiment. Absolument fasciné par Seul sur Mars.
Mais c'est avec Matt Damon, c'est ça? Le film
avec
qui est sorti
Matt Damon,
il y a pas longtemps.
Ouais, ouais.
Ok, d'accord. Mais trop bien, mais il avait eu des super bonnes critiques, je sais. Je ne l'avais pas vu, mais j'ai un peu regretté parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant pour Matt Damon, ce rôle-là et tout. Enfin,
ouais.
Star des années 90 et tout. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment chouette.
Bah moi, je l'ai vu, j'ai trouvé ça pas génial. Enfin, je n'ai pas trop compris en fait, l'engouement qu'il y avait autour de ce film. Je trouvais que c'était un film assez classique au final, j'étais pas accroché par l'humour, etc. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que Ridley Scott a signé des chefs-d'œuvre, enfin on n'est pas tous d'accord, mais comme Blade Runner et Alien. Je sais que t'aimes beaucoup Thelma et Louise.
J'aime beaucoup Thelma et Louise, mais je pense que c'est super intéressant parce que j'ai lu beaucoup sur le traitement des femmes dans Blade Runner. Enfin, on n'en a pas parlé, mais vraiment il y a des scènes affreuses. Enfin, rien ne va, genre leur costume ça va pas, le moment où il dit à Rachel « embrasse-moi », enfin ça ne va pas du tout. Et à contrario, Ridley Scott, il a aussi fait du coup Thelma et Louise, qui est un film qui est très engagé, qui a ses défauts, mais qui aussi est quand même un film qui est considéré comme féministe, et que j'affectionne particulièrement à cause de Suzanne Sarandon, mais ça c'est une autre histoire, et aussi de Gina Davis. Et j'ai trouvé que, en regardant en fait la filmographie de Ridley Scott, il a un peu une filmographie à la Martin Scorsese, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de sujets de prédilection, donc ici la science-fiction, il a fait toute la saga Alien, dont, selon certaines théories, Blade Runner ferait partie aussi.
Oui, car on retrouve la marque de la TRL Corporation dans...
Dans Prometheus.
C'est ça.
En fait, d'un point de vue chronologique, Blade Runner, c'est en 2019, Prometheus, c'est en 2090... Et Alien se passe un peu plus tard, et en fait, du coup, celui de la Tyrell Corporation, donc le chef de la Tyrell Corporation, il a les mêmes idées que le mec dans Prometheus, etc. Donc, il a cette grande filmographie qui est extrêmement liée sur ses thèmes, mais en contrepartie, il fait des films comme Christophe Colomb, Robin des Bois, qui est une daube, enfin, genre qui est vraiment terrible. Et en même temps, il a fait ce film dont j'aimerais parler, qui s'appelle Légende.
Je ne l'ai pas vu. C'est sur le mythe arthurien, la table ronde.
Alors, c'est un film avec Tom Cruise, dans ses jeunes années, avec des licornes. C'est un film complètement de fantasy. J'étais pas du tout au courant, en fait, que c'était Ridley Scott qui avait fait ce film. Moi, j'adorais ce film quand j'étais petite. Mais c'est un film très bizarre où en gros, Tom Cruise, c'est un peu Adam dans un monde... Enfin, c'est un homme gentil qui est là avec des licornes, etc. Et en fait, c'est un film qui est bon, un grand cliché des années 90, mais qui est dispo sur Netflix. Et je vous conseille de le regarder, parce que c'est une hérésie, autant d'un point de vue de Ridley Scott que de Tom Cruise. Donc je pense qu'il faut le regarder. Il y a des petits lutins, enfin ça ressemble un peu à Willow. Oui. Ouais, moi, je le confondais avec Willow pendant longtemps, et voilà. Donc je vous conseille.
Mais c'est vrai que Ridley Scott, du coup, qui a fait ses armes à la BBC, qui vient de la pub, et ça se voit vraiment dans son traitement de l'image, surtout à l'époque, c'est très esthétique. Il a 83 ans, il est encore très prolifique, c'est incroyable. Là, il y a plein de projets de suite. Il va tourner une suite au Duelliste, qui est son tout premier film avec Harvey Keitel, que je vous conseille, qui est très bon et très beau à l'époque, et ça se passe à l'époque napoléonienne. Mais c'est vrai qu'il a... Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi, Adeline, parce que je trouve qu'il a une filmo cohérente, esthétiquement notamment, mais j'ai du mal à lui trouver vraiment un fil conducteur. J'ai l'impression que souvent, il tourne des films juste comme ça, sans trop y prêter d'attache, et c'est ce que je lui reproche aussi, parce que par exemple il a fait des films comme Exodus, hein, lors de Peplum, un peu cheap quoi, je trouve, même c'est un blockbuster évidemment. Il a fait aussi Une année merveilleuse, qui est un film avec Didier Bourdon, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui se passe dans un vignoble, donc voilà, il a...
C'est pour ça l'accent.
C'est, bah, sûrement, il doit avoir un attachement au sud. Et donc oui, il a une filmographie prolifique, cohérente, mais très inégale, paradoxalement. Donc oui, on peut aussi citer Gladiator, ou La Chute du Faucon Noir, il a fait vraiment des gros gros succès. Et je renvoie d'ailleurs au livre de Marc Moquin, aux éditions Play Society, qui s'appelle Tony Ridley Scott, Armes Égales, je crois. Parce que oui, on n'a pas encore parlé de Tony Scott, mais il avait un frère, Ridley Scott, qui avait le même traitement esthétique. Et est-ce que vous avez vu des films de Tony Scott ou pas? Vous le savez peut-être.
Je ne sais pas, peut-être.
Mais je pense que je ne suis pas au courant si j'ai vu des films avec Tony Scott.
Il a fait notamment Top Gun, okay, avec Tom Cruise. Et l'excellent Les Prédateurs que j'ai failli vous proposer à tirer au sort.
Les Prédateurs,
avec David Bowie et Catherine Deneuve.
Qui est magnifique.
Qui est génial.
Ça fait envie.
C'est un très très beau film sur des vampires, avec Catherine Deneuve qui est magnifique, avec David Bowie qui est des néons, des lumières bleues. Enfin, je l'ai vu au cinéma ce film et j'en ai un très bon souvenir.
J'attendrai pas ta recommandation pour le voir, ou ton petit papier pour le voir, Nico.
J'en suis ravi. Alors, il nous reste quelques minutes pour parler encore de Blade Runner. Et on peut peut-être vite fait débattre de Blade Runner 2049. Dès 1992, Ridley Scott expliquait qu'il n'était pas contre l'idée d'une suite. C'est un projet qui a mis très longtemps à se concrétiser, mais qui est enfin sorti en 2017, réalisé par Denis Villeneuve. Et Lucas, je sais que tu apprécies Villeneuve et que tu as apprécié ce film.
Oui. En plus, Villeneuve nous a prouvé depuis ou avant. Enfin, je sais plus quand c'était sorti Premier Contact, si c'était avant Blade Runner.
C'était un an avant.
Donc, il avait déjà prouvé que science-fiction, il savait faire, quoi, et de façon très originale. Et là, bon, évidemment, on va pas trop s'épancher sur l'aspect visuel de 2049 parce que, c'est magnifique, mais dans un tout autre style. Hein, évidemment, il y a moins ce côté très sale et glauque que l'original. Mais là, t'as toutes ces palettes de néons, là aussi ces lumières. Moi, je trouve ça très beau. Mais surtout, moi, ce que j'ai aimé, c'est que voyez, il y avait plus d'idées de mise en scène. Et je pense notamment à cette scène d'amour entre, en gros, le personnage principal, Ryan Gosling, qui est amoureux qui a une femme et qui est un hologramme en fait. Il est amoureux d'une intelligence artificielle, mais donc pour quand même profiter d'un amour charnel, quoi, je dirais, avec elle, il engage une prostituée qui est une vraie humaine, quoi. Et donc l'hologramme se superpose à cette prostituée et ils font l'amour comme ça. Et ça dit tout, c'est bien vu, c'est hyper beau. Et voilà, là, il manquait des vrais trucs comme ça dans l'original.
Sur ce thème-là précisément, je préfère regarder Heure que d'attendre Blade Runner 2049.
Ouais, mais Heure, c'est ça, pendant 2 heures, au bout d'un moment, t'as compris, quoi. Et là, il trouve vraiment le moyen de les faire copuler, quoi. Enfin, bref. Et au-delà de ça, au niveau des scènes d'action aussi. Alors, dans les deux cas, les scènes d'action sont très rares, hein, elles sont assez efficaces et très courtes. Mais je les ai trouvées encore meilleures dans 2049. Je sais pas, c'est très abrupt, c'est très rapide, enfin, voilà, j'ai trouvé ça mieux mis en scène aussi au niveau des scènes d'action.
Bah, tu vois, je trouve ça beau, très beau, faut parler de Roger Atkins qui est un incroyable chef-op, je trouve ça beau, d'ailleurs, dans les bonus du Blu-ray, Denis Villeneuve dit que Roger Atkins a co-réalisé le film, parce qu'il s'est impliqué tout le long du processus, et ça se voit.
Tu trouves ça trop beau, peut-être?
C'est un film qui est esthétiquement très beau. Mais je trouve ça aseptisé, en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais, ça correspond à comprends.
Mais c'est... Généralement, c'est un film d'architecte. Genre, on voit que tout est beau, tout est carré, tout est à sa place.
C'est un parti pris. C'est pas... Il le savait, forcément, en faisant comme ça, que c'était pas du tout dans la même veine que le côté très, très sale, encore une fois, de l'original.
Bah, je suis d'accord avec toi, mais...
C'est bien de le réinventer comme ça aussi.
C'est bien de le réinventer, mais je trouve que ça manque, en fait, de vie. Ce que tu reprochais peut-être à Adeline au premier, qui manquait de vie. Je trouve que... C'est froid, ça correspond pas forcément au thème qu'il met en place, parce que
je trouve
à la fin il y a des passages qui sont carrément manichéens, genre il y a un discours de policière qui est les classes sociales contre les robots, c'est vraiment des discours un peu vains. Même cette fin là, ce dernier tiers avec une idée de résistance, on sait pas trop d'où ça sort. Harrison Ford, il vient là, ils essaient de jongler avec l'héritage du film. Je trouve ça en fait super maladroit au final, mais je trouve, même si je suis déçu par ce film qui a des qualités, hein, c'est très bien réalisé, c'est très beau, etc. Mais c'est aussi très, très lent, même si c'est pas un défaut.
C'est là aussi que je trouve, moi, où je trouve que le défi est réussi, c'est qu'il fait pas preuve de prétention par rapport à l'œuvre originale. Au contraire, il fait preuve d'humilité, et justement, il respecte le rythme du film, de l'original, un peu mélancolique, un petit peu lent. Après, forcément, je te rejoins sur le fait que dans l'écriture, ce soit beaucoup moins subtil.
C'est ça, en fait, c'est ça. C'est la subtilité. Je trouve le rythme lent, ça me dérange pas forcément. D'ailleurs, il y a des références à Tarkovsky et à Stalker, avec ça tarde dès le début, et je trouve ça très beau. Mais voilà, j'étais quand même assez déçu, surtout que j'aime bien le cinéma de Denis Villeneuve.
Par contre, je pourrais le revoir genre 40 fois pour les scènes dans le casino déserté, moi, de 2049. Mmh.
Oui, sont absolument c'est magnifique.
Prenant.
Et juste pour revenir, pour finir, tu disais manque de vie, tu reprochais le manque de vie, mais je trouve que justement c'est ça qui est bien, c'est que ça correspond carrément au manque de vie qui se lit sur le visage de Ryan Gosling, qui pour moi était le meilleur choix possible, parce qu'on sait, dans les films, que ce soit dans les films de Ray Fun, où il sait faire le mec qui a pas d'émotion, quoi. Et là, ça, ça colle évidemment au scénario, puisque bon, voilà, on va pas parler, enfin spoiler ni rien, mais ça collait évidemment à ça. Donc pour moi, Ryan Gosling, c'était un très bon choix et un bon point de plus pour ce film là, quoi.
Ok, bah ceci dit, je pense qu'on est d'accord sur le fait que c'est plaisant d'avoir un blockbuster qui est aussi à part et aussi personnel et qui arrive à prendre des risques. Et même si on n'a pas eu la même sensation devant, c'est quand même un film à 100 millions de dollars qui s'adresse à une niche au final. Donc c'est cool et c'est aussi bien que ça n'ait pas mis fin à la carrière de Denis Villeneuve, parce qu'on va bientôt le retrouver avec Dune.
Dune.
Pour lequel je suis un peu moins... Je suis plus sceptique, mais bon, on verra. Ça sera peut-être une bonne surprise.
Je suis dans l'attente. Je sais pas ce que ça va être. Je déteste Timothée Chalamet. Je ne peux pas
laisser dire ça, Chalamet, putain.
Ah, j'ai pas du tout aimé la DA des Verts. Enfin, genre, ça va pas trop, mais j'attends. On sait pas. Peut-être que sur un malentendu.
Eh bien, pour clore... ce long débat sur Blade Runner et son héritage, je citerai Philip K. Dick, car Blade Runner est adapté d'une nouvelle de Philip K. Dick, adaptée librement mais qui a repris l'univers. Et à l'époque, il y avait ce cher Philippe Manœuvre, donc qu'on connaît encore, qui est encore un personnage très médiatique.
T'as peut-être une petite imitation de Philippe Manœuvre à nous proposer.
J'oserais pas, c'est quelqu'un. je l'ai pas, là, je l'ai pas en tête, sinon je me serais entraîné si tu m'avais prévenu. Et Philippe Manœuvre avait dit dans Metal Hurlant, je cite, il faudrait crever les yeux de Ridley Scott, tellement le film est une horreur. On n'est pas d'accord avec lui. Mais Philip K. Dick, lui, avait dit, il y a des rumeurs, enfin certaines personnes disaient non, il est déçu du film ou quoi. Mais un des derniers avis de Philip K. Dick sur le film est merci, ce sera une œuvre immortelle. Je trouve que c'est très beau et qu'au final, qu'on l'aime ou pas, ça reste une œuvre immortelle dont on parle encore 40 ans après.
Mais il est mort juste avant la sortie du film, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et il lui est dédié. Très bien. D'ailleurs, pour filer le truc sur les morts, il y a une triste nouvelle, mais l'acteur qui joue Roy, du coup le...
Rutger Hauer.
Ouais, du coup le réplicant à la fin... est mort en 2019, comme du coup son personnage, et ça a été un peu... Oh,
j'avais pas fait le rapprochement.
Et il est mort à quelques mois d'intervalle de la sortie, enfin du moment du film, et du coup tout le monde a dit waouh, le réplicant est vraiment mort et tout, c'était très très dur psychologiquement pour la famille et tout, parce qu'ils ont reçu plein de trucs, enfin bref. Voilà, c'était une anecdote un peu glauque, mais pour finir...
Pour un film qui est immortel. Donc l'émission va bientôt toucher à sa fin. Est-ce que vite fait vous avez des petites recommandations de films, de livres dont vous aimeriez vous parler, Lucas ?
Ouais, bah moi je suis en plein dans une session Maurice Pialat, qui est une grande... Enfin, je connaissais de nom Maurice Pialat, mais là j'adore. Et son premier film s'appelle L'Enfance Nue, ça sort en 69. Mm-hmm. Et bon, bah toi qui aimes les 400 coups, Louis, je peux t'annoncer que c'est encore mieux. Vraiment, c'est beaucoup plus brut, beaucoup plus réel en fait, et ça n'empêche pas de vrais moments de poésie. Tu verras une scène avec du Richard Wagner, qui est décidément Richard Wagner et le cinéma, ça marche toujours. Et donc avec beaucoup d'acteurs amateurs, ça fait penser beaucoup au cinéma de Bruno Dumont, et notamment un acteur amateur qui s'appelle Bertrand Escher, ou appelé aussi Bébert, qui est exceptionnel, mais je vous laisse donc découvrir ça.
Bah, je regarderai ça avec plaisir, et Wagner, ça me fait une bonne transition pour ma reco, qui moi serait Requiem pour un massacre, de Klimov, que j'ai vu très récemment, et j'ai pris une claque monumentale sur la Seconde Guerre mondiale en Biélorussie, donc dans un point de vue qui n'est pas américain pour changer, et un point de vue où tout n'est que souffrance, et ouais, j'ai pris une claque, et le film reste là encore gravé en mémoire. Et une deuxième petite reco, un peu plus légère, un peu plus facile à regarder, c'est Good Time, des frères Safdie, que j'ai regardé parce qu'on a beaucoup parlé de Uncut James, notamment on l'a mis dans notre top 2020, et je trouvais qu'on retrouvait la même tension, la même adrénaline que dans Uncut James, dans ce film, qui semble préparer justement, et là aussi avec un acteur, donc Pattinson, que j'aime beaucoup en ce moment, donc voilà, mes deux petits trocos. Et toi Adeline, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Pas grand-chose en ce moment, mais du coup j'ai lu le dernier revu et corrigé sur la musique de film, que j'ai trouvé très intéressant, et donc du coup ça m'amène à faire de l'auto-promo pour notre dernière émission sur les musiques de film. Mais j'ai trouvé que c'est très intéressant parce qu'il s'intéresse aux compositeurs, principalement aux compositeurs récents et moins récents, mais pas les grands mastodontes. Et du coup, ça apprend vraiment les techniques, etc. Et j'ai trouvé vraiment, vraiment le dossier intéressant.
Ben, sur la musique de film, on va faire une toute petite transition parce que moi je recommande un film qui commence par une musique céleste incroyable, qui commence par le school de. Une musique de King Crimson dont j'ai oublié le nom là tout de suite, qui est Mandy, un film de Panos Cosmatos avec Nicolas Cage, que j'avais découvert à la quinzaine des réalisateurs en 2018, et qui est enfin disponible en France, donc ça sera diffusé sur Netflix le 6 février, donc qui est disponible à l'heure où vous écoutez l'émission, et qui est un film totalement fou, vraiment entre le nana et le chef-d'œuvre. Qui est esthétiquement incroyable. Il y a des genres de démons qui poursuivent Nicolas Cage à cause d'un gourou musical qui a kidnappé sa femme. Il y a Nicolas Cage qui prend de la coke sur des éclats de verre. C'est incroyable, je vous le conseille vraiment. Regardez-le.
Tu le vends très très bien.
Eh ben, merci.
Beaucoup de Nicolas Cage, j'aime beaucoup.
Ah ben non, mais là vraiment, il atteint un niveau de conscience de lui-même stratosphérique. Il sort de son corps, quoi. C'est méta Nicolas Cage.
C'est méta Nicolas.
Méta Nicolas, ben, très beau prénom d'ailleurs. Et ben, on va passer... Après tous ces films dont on a parlé, on va passer au tirage au sort du prochain film. Je vais rappeler, lors de l'émission précédente, Louis avait proposé Blade Runner, Lucas avait proposé
Mulholland Drive,
Adeline, je t'aime d'Alain René, et moi j'avais proposé L'Homme de Rio. Alors Victor, tire un papier au sort.
Alors j'avais déjà pré-tiré le papier car j'aime beaucoup le style de papier. Et aujourd'hui, le film est Réalité de Quentin Dupieux.
Oh, et oui. C'est encore moi.
Oh, et ben voilà, mais quel chanceux.
Il faudrait peut-être que j'arrête de mettre des petits papiers, sinon je vais préparer toutes les émissions.
J'ai pensé à le mettre à un moment. Ah ben, tant mieux.
Une super émission sur l'absurde et sur Alain Chabat, moi, et Quentin Dupieux, moi, ça me plaît.
Ah oui, okay. Bah, avec plaisir.
Volontiers.
Ben, on sera là, ou peut-être pas. On sait pas.
En tout cas, on la fera.
Juste par curiosité, vous avez mis quoi d'autre comme papier?
J'ai mis Le Secret des Poignards Volants. De
Stuyark, non,
c'est écrit sur mon petit papier, mais j'ai oublié le nom. Mais voilà, je voulais parler de la féerie de l'Asie. Et des...
Alors, c'est Zhang Yimou.
Voilà.
Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce film et j'avais vraiment envie d'en parler. Donc, peut-être qu'il sera dans mon prochain papier.
On ne sait pas, Lucas, toi, tu avais mis quoi?
Ah bah moi j'avais été d'une originalité aberrante puisque j'avais mis Psychose de Hitchcock, parce que un des meilleurs films de tous les temps, mais qui nous aurait fait parler du maître, de l'horreur. Et...
Après une spéciale Hitchcock, ça nous fait 2 heures là, je pense.
Au minimum. Et moi j'avais mis 100 000 $ au soleil, un film d'Henri Verneuil, avec Belmondo, avec Bernard Blier, ouais. Avec Lino Ventura, écrit par Michel Audiard. C'est un western qui se passe dans le Sahara, enfin bref, voilà.
Alors, juste pour vous couper, j'ai pas Psychose, j'ai Plein Soleil sur ton papier.
C'est vrai que j'avais mis Plein Soleil. J'ai changé au dernier moment.
C'est marrant, je sais pas si je lis mal.
On aurait fait une spéciale de long. Ok, la mémoire, c'est quelque chose.
J'ai failli mettre La Piscine, donc écoute.
Une spéciale de long arrivera bientôt.
Allez, faut enregistrer une émission par semaine, à ce rythme-là. Et donc, la séance du dimanche, 10e épisode, c'est déjà fini. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify et toutes les plateformes de podcast, à nous envoyer des messages sur Instagram, ça nous ferait très plaisir. On se retrouve le 7 mars prochain pour une nouvelle émission sur Réalité, donc. D'ici là, on espère que les cinémas réouvriront, même si on n'y croit pas trop. On se quitte sur la musique du générique de Blade Runner, évidemment, et sur ce, à très bientôt.
À très vite.
Bisous.